les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Nous sommes au Festival du Livre de Paris qui porte bien son nom cette année. Ce n'est pas un salon, c'est une fête après deux éditions annulées en raison de la pandémie. Les auteurs, les éditeurs et le public se retrouvent. Preuve en est la foule magnifique devant nous et ce public si fidèle à nos émissions. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Voici le sommaire de cette émission.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Le prix Goncourt 2008, Atik Raïmi est sur notre plateau. Il publie avec sa fille Alice Raïmi un recueil de correspondances qui raconte sa vie entre l'Afghanistan et son exil en France, avec des confidences intimes et émouvantes entre père et fille. Nous serons avec la chanteuse Clou, révélée par Radio France et les Victoires de la Musique. Elle sort un livre pour la jeunesse, des textes poétiques sur des thèmes personnels et universels. Elle jouera aussi un titre acoustique sur notre plateau. Nous recevrons l'éditrice Laure Leroy, qui fête ici ses 30 ans de sa maison d'édition Zulma, qui célèbre la francophonie et l'ouverture sur le monde. Et nous irons dans l'ambiance du salon avec des auteurs que vous connaissez bien, en immersion totale avec le public autour. Et les libraires sont avec nous comme chaque semaine. Ils interviendront tout au long de cette émission. En plateau avec nous, c'est Mathieu Colombe pour représenter la France. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Aix-en-Provence dans la librairie Goulard. Tout va bien ?
Tout va toujours.
Le voyage s'est bien passé ?
Oui.
Jusqu'à Paris ?
Parfait.
Bien. En Suisse, c'est de nouveau Dominique Bressoux qui est avec nous. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
La comtesse de Boudry, c'est son surnom, oui. À Boudry, dans la librairie Une Petite Prose. Ça va ?
Ça va très bien, merci.
Parfait. Bonjour Mike Vienno.
Bonjour Emmanuel.
Vous vous représentez le Canada, vous êtes libraire dans la librairie Monet à Montréal et le printemps arrive, donc les Québécois sont très heureux en ce moment. En Belgique, c'est Déborah Damblon de la librairie Le Public à Bruxelles, dans le théâtre du même nom qui est là. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Vous allez nous raconter une anecdote de libraire en ce début d'émission.
Une anecdote de libraire sur un salon, Emmanuel. C'était le dernier jour de la Foire du Livre de Bruxelles, que vous connaissez bien. Et donc, j'avais dans mon sac toute la recette en cash du week-end. Ça faisait quand même pas mal de billets.
Oui.
Et moi, comme une nouille, j'arrive et je dépose mes affaires dans le local prévu à cet effet. Et j'y pense plus. Quelques heures plus tard, quelqu'un m'appelle et me dit « viens vite, on a volé dans le vestiaire ». Alors, je me décompose, je me précipite. Je regarde, je trouve mon portefeuille par terre, dépouillé des 5 euros qui s'y trouvaient.
Oh, ça va.
Et dans mon sac, l'alias était intact.
Ah oui.
Alors, merci, mais merci mon ange gardien de m'avoir envoyé un voleur encore plus nouille que moi.
Oui, c'est ça, il n'avait pas vu en fait l'alias, mais il a vu 5 euros, il s'est jeté dessus. C'est génial.
Ouais. J'ai jamais été aussi contente qu'on m'ait piqué 5 euros.
Merci pour cette histoire, Déborah, on vous retrouvera bien sûr tout à l'heure. Voici Clou.
Tu en joues. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien.
Et bonjour Clou.
Et bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Votre album Orage, dont on vient d'écouter un extrait, a été une révélation francophone en 2020. La musique, c'est sérieux depuis votre adolescence, dites-vous, dans votre livre.
Oui.
Doux maudit, qui s'adresse à la jeunesse, mais pas seulement. Vous racontez que vous avez été au conservatoire. Mais là aussi, c'était sérieux, là. Il fallait jouer Ravel, Mozart à la perfection. Votre père était très dur avec vous.
Mon père était très sévère, effectivement, et le conservatoire aussi. C'était, je sais que ça a beaucoup changé depuis que je ne suis plus adolescente, mais oui, c'était sévère, sérieux et très droit.
Ouais. Ouais. Alors, votre première chanson, vous l'écrivez un peu dans votre chambre.
Oh oui.
Et vous êtes inspirée par la crise de la vache folle.
Oui, je sais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que je n'osais pas trop parler de moi, et donc j'ai cherché un sujet d'actualité. Et la vache folle était partout. C'était quelque chose qui était extrêmement angoissant.
Et oui, oui.
Et qui me faisait vraiment peur. alors que j'avais, moi j'aimais les animaux, comme beaucoup d'enfants et d'adolescents.
Oui, une histoire avec des dauphins, on va raconter tout à l'heure.
Tout à fait, les dauphins. Et voilà, et ça m'a inspiré. J'ai fait une valse, quelque chose qui... Une sorte de pompe à la Brassens.
Ouais.
C'est devenu une chanson qui s'appelle Rosemary la vache.
Oui, c'est ça.
Que je n'ai jamais chantée en live.
Non, alors j'ai cherché du coup, et non, ouais, elle est introuvable. Et puis il y a votre découverte initiée par l'école de la flûte.
Oh oui.
Vous avez beaucoup de souvenirs avec la flûte à bec. Et je crois que tous, ici,
on a tous un souvenir
au Festival
avec la
de Paris, on a un souvenir avec la flûte.
Mais oui, la flûte au collège, qui pour moi était au début un peu une hérésie. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cette flûte? Et puis, en fait, ça a été un instrument comme une révélation, car notre professeur nous demandait de faire des formules inventées avec la flûte. Et il se trouvait que j'étais particulièrement bonne pour faire ça. Mmh. Et donc, j'ai brillé en classe à la flûte. À bec, ce qui était complètement dingue.
Ouais. Alors j'ai une surprise pour vous, Clo, parce que j'ai...
Ah non
au logo de France Inter, mais parce que c'est France Inter qui a fait des flûtes à bec l'été dernier. Oh. Elle est toute neuve. Hein. Personne n'a soufflé dedans, vous voulez bien essayer?
Mais je n'ai pas joué depuis le lycée. Je ne sais pas jouer de la flûte.
Non, moi non plus. Hein.
Oh, en tout cas, elle est magnifique. Elle
on
est
souffler magnifique, dedans, voir ce que rouge. Ça donne, peut-être.
Voilà.
C'est magnifique, hein. Vous pouvez applaudir, Clo. Voilà, c'est... Elle jouera la flûte à bec tout à l'heure, un titre extrait de son album.
En fait, je devrais bosser ça.
Alors, dans ces textes conçus comme des poèmes en prose, vous confiez aussi avoir été touché par un homme dans un bus. C'est un moment très fort dans ce livre-là. Vous dites dans le 96, je ne sais pas si j'exagère, si c'est vraiment lui, si c'est vraiment moi. Et vous ressentez cette violence bien après comme une sidération.
Tout à fait. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Et ça a commencé extrêmement jeune. J'avais, je sais pas, 11 ans pour la première fois. Et le moment qui m'a le plus frappé et que j'ai raconté dans le livre, c'est dans le bus 96, qui m'emmenait au conservatoire d'ailleurs.
Oui, oui.
Et oui, effectivement, j'étais sidérée, j'étais incapable de réagir. Mais vraiment incapable de réagir. Et je ne m'en suis rendu compte qu'en rentrant chez moi, où j'ai été frappée par la violence, vraiment. Mais sur le moment, j'étais pas capable de bouger ni de crier.
Et vous doutez même de votre consentement à un moment?
Bah oui, parce que quand on bouge pas, on se demande si on n'est pas là parce qu'on a envie d'être là. On se pose vraiment ces questions-là. Et on cherche des excuses aussi, parce qu'on se demande pourquoi ça m'arrive à moi. Peut-être que c'est de ma faute, peut-être qu'on culpabilise, quoi, tout bêtement. Je crois que c'est très classique hein, chez les victimes d'agressions.
Alors vous racontez comme ça hein, des moments de votre adolescence, Clo. Dans ce livre, il y a des moments très drôles aussi. Des moments attachants avec le pauvre Bastien qui aimerait bien vous draguer avec ses grands pieds et son grand nez tout maigre.
Mm-hmm.
De corps, hein, parce qu'il n'y avait pas de sport. Il est délégué de classe et il est très maladroit avec vous.
Oui, tout à fait. Il est très maladroit, mais il est quand même venu me parler.
Oui.
Et au moment de me parler, bah, c'est ce que je raconte dans le livre, je sens qu'il cherche ses mots et il triture ses mains. Et au moment d'ouvrir la bouche, il crache un postillon. Et ça le bloque complètement et il devient tout rouge et il part. Et il n'est plus jamais revenu me parler. Voilà.
Vous fermez les yeux parce que le postillon arrive sur vous.
Tout à fait.
Ouais, c'est génial.
Et moi, j'étais plutôt, je ne me suis pas du tout rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enjeux dans cette approche-là.
Ouais. Bon, on va laisser la parole à nos libraires qui ont lu votre livre. N'ayez pas peur. Je sais qu'elle est très angoissée. C'est la première interview radio hein, pour ce livre. Donc voilà, on est ravis de vous accueillir. J'espère qu'on vous portera bonne chance. On va aller au Canada. Ça vous va, le Canada?
Très bien.
Allez, Mike Vienno qui a été adolescent, forcément. Mike.
Oui, évidemment, et je ne suis pas plongé dans le recueil de Clo. C'est plutôt son écriture simple, fracassante, cristalline qui m'a complètement inondé. Vous nous prenez par la main, par le cœur, par les souvenirs. Ces souvenirs qui pourraient être les nôtres, ces mots de jeunesse, s'ils sont dits, peuvent et doivent être lus à haute voix pour en faire ressortir toute leur saveur, leur intensité, le fruit de leur complexité. Si le vin se décante pour mieux le déguster, la poésie de Clo se déclame pour mieux la savourer.
Oh là, mais non, ça va?
Oh, je vais pleurer, mais...
C'est bien, la Belgique, Déborah Damblon. Elle est très sensible, Déborah.
Oui, et elle est toujours un peu adolescente, n'est-ce pas,
Emmanuel?
Oui,
ça,
elle
est bien,
elle
l'a
adoré, vraiment, vraiment, parce que c'est fin, c'est juste, c'est bien envoyé, c'est très abordable aussi. Tout le monde à peu près peut lire votre livre et s'y retrouver. Et pour les jeunes, j'ai envie de dire qu'il est réellement, mais réellement d'intérêt public, le fond. Parce qu'aborder la plupart de ces sujets est essentiel, alors que dire de tous ces sujets réunis. Et puis la forme, parce que c'est très facile à lire, c'est concret.
Ouais.
Et donc vous ne laissez personne sur le côté, même les lecteurs fragiles. Et ça aussi, vraiment, c'est d'intérêt essentiel.
Voilà, Clo a séduit nos libraires. Merci. Vous pouvez bien sûr l'applaudir pour son premier recueil de textes, recueil de nouvelles. À l'âge de 6 ans, donc, Clo, vous décidez de vous engager pour la protection des dauphins. Et vous écrivez une lettre, mais vraiment, en fait. Hein.
Mais oui, elle existe, cette lettre. Hein.
Oui.
Elle est toujours en ma possession.
Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là?
Mais j'écrivais à une association d'aide pour la sauvegarde des dauphins que j'avais vu dans un reportage. Et je disais tout simplement, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et cette lettre, je l'avais montrée à mes parents en leur disant, est-ce que je peux l'envoyer? Et mes parents avaient ri. Alors, ils avaient ri avec beaucoup de tendresse, sans doute. Mais ça m'avait choquée. Et j'étais assez sidérée encore face à leur rire, à leur moquerie. Alors que moi, je portais sur mes épaules la sauvegarde des dauphins.
Eh oui. Ouais. Et alors, vous avez continué adulte ou pas?
Bah, à ma petite échelle, tout à fait, ouais. Mais pas les dauphins, parce que j'ai appris que les dauphins, c'était pas des animaux super sympas.
Bah, si, quand même.
Non, il paraît que c'est pas fou.
Ah bon?
Ouais, je préfère maintenant les chiens.
Voilà. Vous avez choisi, quoi.
Ouais, j'ai choisi mon camp.
Il y a un passage assez douloureux, Clou, dans votre livre, c'est le départ de votre mère, qui quitte le foyer familial. Et vous la voyez, alors on imagine que vous la sentez pas heureuse.
Oui.
Et à un moment, vous lui dites, alors que vous êtes toute jeune, hein, mais tu sais, tu peux le laisser.
Ouais, tout à
tu
fait.
Peux nous laisser, on va se débrouiller.
C'est encore très vif, c'est étonnant, parce que c'est arrivé il y a des années. Je me souviens encore extrêmement bien de ma mère avec sa cigarette devant la machine à sécher le linge. Elle pliait le linge comme si c'était son rôle, comme si c'était obligatoire. D'ailleurs, c'était toujours elle qui le faisait. Et elle soupirait, elle me disait « Ce sera plus facile de partir quand tu seras plus grande. » Et je lui disais « Mais maman, tu peux partir maintenant. Tu peux t'en aller, ça va aller. Je vais y arriver, quoi. » Et elle s'est sentie autorisée parce que je lui ai donné l'autorisation. C'est assez dingue, hein. Mm-hmm. Mais vraiment, ça s'est passé comme ça. Et quelques mois plus tard, elle partait.
Ouais. Elle remplit sa voiture, elle s'en va.
Elle remplit la Twingo, ouais. Et elle est partie. Ouais.
Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle vous dit?
J'ai ressenti un soulagement pour elle. J'ai ressenti un vide immense dans l'appartement, évidemment. J'ai ressenti quelque chose de très palpable. Alors elle a toujours fait partie de ma vie, donc tout d'un coup, ne plus la voir tous les jours, c'était inédit, c'était dur. Et je me suis pas rendu compte d'ailleurs que c'était dur, parce qu'au début, j'étais bravache, hein, je préférais être avec mes copains, et ma mère, c'était ma mère, hein, voilà. Non, elle laissait vraiment un vide total, ouais.
Bon, vous avez les larmes aux yeux, alors on va parler d'autre chose, hein.
Oui, bah, c'est
on
super, va parler hein, de votre... ce livre, vraiment.
Non, mais ça alterne comme ça, c'est pour ça que j'alterne entre l'humour et des sujets un peu plus graves, ouais. Parce que c'est exactement ce que vous faites dans ce livre. Il y a Nathan, votre premier amoureux, quand
oui,
même.
Oui, mon premier amoureux, oui, s'il vous plaît.
Alors, c'est un premier amour génial, parce que un jour, il vous offre un cadeau. Alors là, moi, je vous en ai voulu à vous, Clou.
Ah, pourquoi?
Mais parce que vous êtes pas sympa avec lui. Il vous offre un cadeau, il vous dit, voilà, j'ai vu ce livre, j'ai pensé à toi.
Non mais c'est faux, vous le savez très bien.
Non.
Vous savez très bien que c'est faux.
Bon, racontez vite fait.
Alors, très rapidement, moi j'étais folle amoureuse de lui et je pense qu'il était amoureux de moi. Et pour Noël, il m'offre un cadeau de photos, un livre de photos. Et je pense que c'est un cadeau recyclé. Et j'espère qu'Emmanuel, vous n'avez jamais fait de cadeau recyclé.
Ah non, jamais. Non.
Vraiment, c'était horrible, ça ne me correspondait pas du tout. Je n'ai jamais dit que j'aimais la photo, je n'ai jamais dit que ça ne m'intéressait pas un quart de seconde. Et donc j'étais choquée. Ouais. Choqué devant ce cadeau qui ne me correspondait pas et qu'il avait donc pas choisi. Mais il avait choisi de me l'offrir.
Bon.
Et il n'y avait pas de paquet cadeau.
Oui,
attention.
Bon, mais il
n'avait
pas
pire.
Eu le temps. Ah non, attends, je ne vais pas le défendre.
Comment vous pouvez le défendre?
Bon, il peut témoigner. Il existe du coup.
Il existe.
Oui, bon, s'il nous écoute, qu'il nous donne la vraie version. Bon, alors du coup, vous allez écrire sur des cahiers à spirale, tout ça.
Ouais.
Et votre papa s'en rend compte et il va lire vos cahiers à spirale. Alors vous inventez un alphabet. Avec des codes.
Oui, tout à fait.
Sauf que
j'ai perdu le code. Donc moi qui m'étais fatiguée à... Non mais j'ai vraiment créé un alphabet qui était complètement fou. Ça me prenait un temps dingue pour écrire la moindre phrase. Et j'ai perdu l'alphabet malheureusement.
Et donc tout
ou
était
heureusement,
perdu.
Heureusement d'ailleurs.
Ouais.
Heureusement.
Tout ce que vous avez écrit n'était plus décryptable.
C'était pas lisible.
Voilà.
Voilà. Bon. C'était super.
Depuis ces carnets, vous les avez remplis de chansons et vous faites votre vie avec ça. Merci beaucoup Clou.
Merci beaucoup.
Merci. Doux Maudit est paru aux éditions Rajo. Vous allez vous installer pour jouer un titre qui fait référence à votre livre, le temps de vous poser quelques minutes. On accueille Laure Leroy sur notre plateau.
La librairie francophone, émission spéciale, Emmanuel Kérad.
La librairie francophone est au Festival du Livre de Paris aujourd'hui. En public, vous les avez entendus, ils sont là. Vous pouvez encore applaudir, comme ça on vous entend. Ça fait du bien d'être en public pour cette émission de retrouvailles. Bonjour Laure Leroy.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous Laure?
Oh ben ça va merveilleusement bien quand on est au Festival du Livre de Paris.
Votre maison d'édition Zulma fête ses 30 ans. 30 ans déjà, vous aviez 10 ans quand vous avez commencé ou...
Non, je dois dire que j'ai fêté mes 50 ans il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui.
Et 50 ans c'était bien pour une personne, mais alors 30 ans pour une maison d'édition, ouais. Je me suis fait peur toute seule. Oui.
Alors c'est vrai que pendant 15 ans, à partir de la création de cette maison d'édition avec une autre personne, vous avez fait des stages partout afin de maîtriser toute la chaîne du livre. Et c'est en 2006 que vous rénovez tout et que vous lancez cette collection aux couvertures très colorées que l'on connaît aujourd'hui.
Ben oui, j'avais envie que la maison Zulma soit connue pour son ouverture au monde. Moi, j'adore la diversité du monde, j'adore la diversité de toutes les cultures. Je trouve que les autres ont toujours tellement à nous apporter, tellement à nous raconter. Et pour moi, la maison d'édition devait être le vecteur de toutes ces littératures du monde,
ouais, c'est ce que vous
francophones
faites, ouais.
Ou traduites. Et c'est ce qui se publie entre ces très belles couvertures dessinées par David Pearson.
Alors, Zulma est l'un des éditeurs qui a le plus porté la francophonie, il faut le savoir, avec des auteurs parfaitement inconnus d'ailleurs, en provenance du monde entier. Et vous avez ce goût pour l'ouverture et le métissage. La culture, c'est la définition du métissage pour vous, Laure ?
Oui, le métissage, c'est la culture. Oui, mais c'est porté par la curiosité. C'est porté par la générosité, porté par la bienveillance, porté par le fait que l'autre va être une richesse pour chacun de nous. Et ça ne nous enlève jamais rien. C'est toujours un plus.
Alors, le Salon du Livre de Paris, devenu Festival du Livre de Paris, c'est un lieu que vous aimez bien, je crois. Alors que souvent, on entend des plaintes sur cet événement. C'est très français, ça. On se plaint toujours des événements. Et notamment, c'est vrai, le pauvre Salon du Livre de Paris, il en a pris plein la tête, hein, des années dernières. Vous, vous avez toujours aimé cet événement.
Moi, j'adore ce moment-là parce que toute l'année, en tant qu'éditeur, Zulma est en contact avec les libraires de partout, en France, en Belgique, en Suisse, au Québec. Donc voilà, on adore travailler avec les libraires. Mais le Festival du Livre, tous les salons du livre, c'est le moment où on parle avec nos lecteurs.
Ouais.
Et je dois dire que ça, d'avoir concocté, imaginé des merveilles, des pépites pendant des heures et des heures de travail, et arriver devant quelqu'un qui va vous dire, vous savez, merci, j'ai adoré ce livre, j'étais tellement heureuse. Et voilà, tout à l'heure, je suis arrivée sur ce plateau, j'ai eu un petit compliment de ma voisine que vous allez entendre chanter dans quelques secondes.
C'est bien, présente avec moi alors aujourd'hui.
Et c'était, voilà, on a des lecteurs, ouais. Ouais. Ça c'est merveilleux pour un éditeur.
Et des libraires aussi, vous avez une relation très forte avec les libraires, Laure Leroy. Vous avez même incité les autres éditeurs à vous suivre dans cette relation avec des postes dédiés. Vous avez été une des premières à...
Oui, oui, oui.
À embaucher quelqu'un pour s'occuper des libraires.
La librairie indépendante, c'est une richesse extraordinaire qu'on a en France. On s'en rend pas compte, ça vient de la loi sur le prix unique du livre de 81. Et cette diversité, cette richesse de la librairie indépendante, c'est ça qui permet la diversité éditoriale, la diversité des auteurs, la diversité des récits, des histoires, des styles. Tout ça, c'est nos libraires qui le portent.
Bon, merci beaucoup, Laure. Vous pouvez l'applaudir. 30 ans. Bon anniversaire, Laure. Bon anniversaire à vous. Les 30 ans de Zulma sont fêtés ici tout le week-end au Festival du Livre de Paris. À noter aussi 3 autres anniversaires sur ce salon. Les 60 ans de 10-18, les 60 ans de Pocket et les 50 ans de Folio. Bon anniversaire à ces éditeurs de livres de poche que nous connaissons tous et qui ont forcément accompagné une partie de notre vie un jour. Hein, Laure, vous confirmez, c'est magnifique.
Oui.
Les livres de poche, c'est génial. Vous avez d'ailleurs une collection poche. Bon, voici Clou, vous pouvez l'applaudir. Elle est installée. Elle est prête pour jouer son titre acoustique en public ici au Festival du Livre de Paris. Clou dans la librairie francophone.
Ces anges, j'ai l'air de quoi ? Vouloir ce que je n'ai pas, les jambes et les yeux de chat, l'audace et l'insouciance, hélas, ne s'apprennent pas. Oh, j'ai l'habitude, oh, question d'habitude. Et non, je ne suis pas jalouse, non, je ne suis pas jalouse, mais je ne des idoles, des poupées dans les cieux.
Avec Jalouse, ici au Festival du Livre de Paris. Merci beaucoup, Clou. Ça s'est bien passé, vous voyez. Vous êtes magnifique, c'était génial. c'était formidable. Super. Merci à vous.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Les coups de gueule et les coups de cœur de nos libraires. Première partie au Canada, Mike Viennot, un coup de cœur.
Oui, je vous parle de Confession d'une femme normale d'Élodie Marseille aux éditions Power, un journal intime de l'intime, la BDiste de Montréal, oui, malgré son nom, se raconte encore plus à elle-même qu'à nous. N'empêche que sa franchise et son ouverture nous permettent de partager ses angoisses et ses peurs. C'est un journal ouvert sur sa vie sexuelle, sur ses expériences. C'est le livre est peut-être orienté pour un public plus précis, avec des sujets sans détour, une esthétique caractéristique. Il pourrait très bien séduire un très large lectorat curieux de ses révélations franches et honnêtes, et qui sait, par ricochet, soucieux d'en découvrir plus sur lui-même.
Très bien, Confession d'une femme normale aux éditions Pao Pao. Merci beaucoup, Mike. En Suisse, un coup de gueule, Dominique Bressoux.
Oui, alors vous savez, il y a pléthore de prix littéraires en tout genre, on est d'accord. Mais ici, il y a un prix existant depuis 2009, le roman des romans, qui ne s'occupe que de littérature romande et qui a pour but d'intéresser les ados à la lecture. Mais voilà, plus de soutien, plus de prix. Alors je râle, moins d'argent pour le foot et plus pour les livres, s'il vous plaît.
Oui, et vous êtes applaudi par le public, oui, effectivement. Moins d'argent pour le foot, ouais. Ça fera pas de mal. Merci Dominique. Bonjour Atik Raimi.
Bonjour.
Bonjour Alice Raimi.
Bonjour.
Sur cette musique que vous connaissez, Le silence de l'exode de Yom, que vous citez d'ailleurs dans ce livre, Père et fille pour la première fois sur notre plateau. Atik, vous êtes écrivain, réalisateur et artiste, lauréat du prix Goncourt en 2008 pour Singe et Sabour, Pierre de Patience, adapté au cinéma en 2013 par vous-même avec la participation de Jean-Claude Carrière. Alice, vous êtes comédienne, vous serez très bientôt à l'affiche du film d'Ali Abbasi présenté au Festival de Cannes. Qui a eu l'idée de ce livre à deux voix, de ces échanges pendant la période de la crise sanitaire?
Directement moi et indirectement Alice, je crois.
C'est bien dit ça.
Oui, parce que évidemment, comme tout à l'heure, vous avez évoqué l'histoire de la pandémie, les fêtes des livres, mais aussi on vivait dans une sorte d'angoisse. Moi, c'était dans une inquiétude paternelle et dans une angoisse existentielle.
Ouais.
Évidemment, je m'inquiétais pour elle parce qu'elle était à la fin de ses études au conservatoire. Moi, enfermé dans mon atelier, sans avoir la possibilité d'écrire, de continuer mes romans, etc.
Oui.
Donc, j'étais aussi dans une angoisse. Et puis, cette angoisse permanente de la mort.
Alors, c'était l'occasion pour vous de vous dire des choses aussi un peu taboues, quelque part. De vous raconter aussi l'un l'autre, Alice.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il m'a envoyé la première lettre. Et puis, j'ai hésité à lui répondre « Merci, gros bisous, je vais bien, ne t'inquiète pas ». Mais finalement, j'ai trouvé une petite porte d'entrée pour pouvoir justement rentrer en conversation avec lui.
Alors Atik Raimi, vous dites que dans la culture afghane, il n'est pas naturel de se confier à ses proches, qu'il y a aussi une grande pudeur dans les sentiments.
Oui, c'était une culture dans laquelle alors, de dire ou ne pas dire, c'est une question existentielle, bien sûr. Et puis oui, moi aussi, c'était évidemment que dire à sa fille. Mais petit à petit, évidemment, elle s'interrogeait sur son avenir et sur le futur. Et moi, j'essayais de lui répondre par mon passé.
Oui, c'est ça. Alors, vous écrivez d'ailleurs, page 124, « Je venais d'une culture dans laquelle la vie personnelle et intime restait et reste secrète. Ce qui provoque chez les Afghans une sorte de schizophrénie aussi bien individuelle que collective. Ils n'aiment guère parler de leurs maux intérieurs. »
Oui, en effet, toujours, on a une sorte, soit par pudeur, ou soit par une tradition ancestrale. Donc, on garde toujours les choses en soi. Ce qui cause, évidemment, on voit ce qui se passe dans le pays. Hein. C'est une des raisons pour moi.
Oui, parce qu'on ne dit pas les choses.
On ne dit pas les choses. Donc, on les cache ou bien on ne les évoque pas à travers des métaphores, des symboles.
Oui, c'est ça.
Donc, et qu'il faut déchiffrer.
Ouais. Alors, Alice, vous lui reprochez un peu ça à votre papa. Hein.
Oui, le lyrisme à l'oriental.
Oui, alors pas que ça, hein, parce que ce manque de lien, ça vous a manqué, notamment lorsque vous perdez une amie d'enfance qui meurt brutalement. Atik ne sait pas vous aider dans ce moment. Il vous dit juste, c'est la vie, ça arrive.
Oui, et il était en Afghanistan à ce moment-là, je l'ai eu au téléphone. Il m'a simplement dit, écoute, c'est la vie, ça arrive. Je pense que je voulais entendre autre chose. Et puis, ça a été la première fois que j'ai abordé ce moment de ma vie.
Oui.
Par les mots.
Parce vous avez osé à ce moment-là. Oui.
Mais parce que c'était les mots, j'aurais jamais pu le dire de vive voix.
Ouais.
Jamais.
Alors déjà par les mots, par ces échanges, par ces lettres, ces courriels, et aussi provoqué par la crise sanitaire, parce que vous êtes enfermé comme nous tous à ce moment-là.
Ah oui, bien sûr, c'était un temps suspendu, et puis les questions résonnaient beaucoup plus qu'habituellement.
Et oui, tout tourne dans la tête, là.
Bien sûr.
Ouais. Atik, il y a cette confrontation entre deux identités. L'identité occidentale que porte Alice, dont vous êtes fier d'ailleurs, hein, vous êtes né en France, et Atik, une culture afghane en opposition avec la culture française. Vous êtes entre la reconnaissance de l'accueil de cette liberté, liberté retrouvée, mêlée aussi à une forme de nostalgie de la culture perse.
Oui, c'est vrai que moi je suis né dans une société infanticide, elle est dans une culture justement patricide. Donc, on est dans l'opposition. Et moi, j'avais justement... Qu'est-ce que je pourrais lui transmettre de ma culture? C'était ça, d'une certaine manière. Évidemment, juste pour prouver, justifier mon existence en tant que père.
Eh oui.
Pas autre chose.
Mais elle est allée en Afghanistan, du coup.
Oui.
Oui, plusieurs fois.
Oui, à plusieurs reprises, oui.
Et vous comprenez le persan, en plus?
Oui, je le comprends. Après, je le parle comme un enfant de 10 ans, mais je le comprends.
C'est déjà pas mal. Alors, vous interpellez votre père, Alice, parce que vous lui dites, pourquoi parles-tu de ta culture et non pas de notre culture? Considères-tu que je sois seulement de culture française? Ça vous blesse un peu, aussi?
Oui, énormément. Énormément parce
on est là pour régler les comptes, hein, aujourd'hui.
Non, pas du tout.
Parce que je suis en train de réaliser ce que je suis en train de faire avec père et fille en face, mais c'est tout dans le livre. Hein. Je rassure les auditeurs, tout est dans le livre.
Non, bien sûr, non. Mais c'est juste que, bien sûr, ça reste un auteur, il a été médiatisé, donc je l'entendais à la télé, je l'entendais à la radio.
Oui, dans la librairie francophone. Mais
voilà,
entre autres.
Emmanuel. Et je l'entendais énormément parler de l'Afghanistan, sauf que, et moi, dans tout ça, mon identité, en fait, elle est double aussi. Même si je ne suis pas née là-bas, mais dans la maison, il y a les odeurs, il y a l'atmosphère, il y a la nourriture. On parle en persan en permanence. Alors quoi? C'est-à-dire que moi aussi, je le suis.
Oui.
Moi, je voulais juste la protéger.
Oui, ça c'est vrai.
Contre, évidemment, cette violence que moi j'ai vécue dans mon pays et dans mon propre pays. Et puis à son âge, bien sûr. Donc, c'était une certaine manière, au début, c'est la protéger.
On va laisser la parole à nos libraires. Ils vont trancher peut-être en partie. Il y a Mathieu Colombe à côté de vous. D'Aix-en-Provence, Mathieu, avez-vous aimé ce livre « Si seulement la nuit » aux éditions POL?
Alors, à froid, comme ça, une relation épistolaire. En confinement, j'avoue que j'étais moyennement tenté. Bon, avec la famille Raimi, il y a toujours moyen de s'étonner, en fait. Le crescendo de l'échange, la détresse, les interrogations, les questionnements, la culture. Si on se prend au jeu, on peut se laisser emporter. Bon, alors, certes, on sent un petit peu voyeur, mais la qualité du texte nous dédouane immanquablement.
Ouais, c'est magnifiquement écrit, vous avez raison. La Suisse, Dominique Bressou, êtes-vous d'accord?
Je suis pas forcément d'accord avec sur la question des relations épistolaires, parce que même avec des courriels, on n'en voit plus beaucoup, et moi, je trouve ça vraiment dommage. Et c'est ce qui rend ces écrits précieux. On imagine toujours un peu quel a été le parcours d'un écrivain reconnu et ce qu'il en pense. Et le dialogue sans concession qui s'instaure entre vous et votre fille, il est tellement vivant et tellement sincère.
La sincérité, c'est ce qu'on ressent effectivement à Atik Raïmi et Alice. Vous avez séduit nos libraires. Je vois Alice qui est très émue parce que voilà, un livre avec son papa, c'est pas facile déjà. Et très jeune, à l'âge de 15 ans, Atik, vous avez vécu en Inde. Alors vous parlez beaucoup de l'Inde, qui est le pays invité d'honneur de ce festival du livre de Paris. Quel souvenir en gardez-vous? Je sais que vous avez erré dans le pays. Vous avez été très malade d'ailleurs sur place. Au départ, vous allez rejoindre votre papa qui vous laisse là-bas.
Oui, alors j'avais 15 ans, c'était le début de la guerre, presque en Afghanistan, c'était après le coup d'état des communistes. Mon père, avant, il était en prison, il est à peine sorti, il est reparti vivre en Inde. Et moi, je l'ai suivi, bien sûr. Au bout de 6 mois, lui, il était obligé de retourner en Afghanistan, sinon ses biens seraient réquisitionnés par le gouvernement. Et moi, je suis resté tout seul. Il m'avait laissé un peu d'argent pour suivre mes études, mais j'ai tout dépensé pour un voyage jusqu'au sud de l'Inde. Et je suis, à un moment donné, j'étais tombé malade.
Qu'est-ce que vous avez eu?
Bah, les maladies, vous voyez, quand on va en Inde.
Oui, à cause de l'eau, de la.
De l'eau, de la nourriture. Ouais. J'étais pas habitué à ça. Malgré que l'Afghanistan n'est pas mieux que l'Inde, ça, il faut avouer, mais quand même, nous, on a vécu autrement. Il y avait ça. Et puis, j'étais accueilli par une famille indienne, un vieux couple, qui m'ont gardé presque une semaine. Je crois, pendant 2-3 semaines, je me rendais pas compte.
Oui, ils vous ont soigné? Et vous parlez d'un maître indien. Il est de cette famille-là? Parce qu'on ne comprend pas trop qui c'est dans le livre.
Ah non, alors non. L'autre, c'était Lala Bahari, dont je parle même, dont je fais un personnage dans mon livre, Les Porteurs d'eau.
Oui.
Et lui, mon père le connaissait. C'est parmi ces Afghans indiens qui étaient venus après le coup d'État s'installer en Inde. Et lui, oui, il m'apprenait l'indien, l'anglais, donc avec un accent indien, et puis surtout la philosophie indienne.
Eh oui. Et donc ça vous a donné une philosophie de vie, ça. Oui. Et vous qui êtes toujours, on peut dire, l'ami de Jean-Claude Carrière, vous avez beaucoup échangé avec lui sur l'Inde. C'est ça qui vous a rapproché aussi.
D'ailleurs, on s'était rencontrés la première fois en Inde.
Et
donc, comme si on s'était donné rendez-vous là-bas, alors que je connaissais sa femme bien longtemps, qui était d'origine iranienne, etc. Mais à aucun moment, on s'était retrouvés ensemble. Et comme si on s'était donné justement rendez-vous à cet endroit-là où moi, je me suis construisé et lui construisait avec Peter Brook son chef-d'œuvre Mahabharata.
Exact. Alice, quand votre père vous raconte son exil, sa fuite de l'Afghanistan vers la France, digne d'un film d'espionnage, hein, il faut lire ce passage, c'est absolument incroyable et très effrayant. Vous semblez être encombré par cette histoire, entre la douleur pour vos parents et l'envie d'en savoir plus, mais aussi l'envie, vous le laissez entendre, de passer à autre chose.
Oui, tout à fait. C'était la première fois que j'avais autant de détails.
Et oui.
C'est la première fois qu'il y avait la mise en récit. En fait, c'était la première fois aussi qu'il me l'adressait à moi. Il ne le racontait pas à un journaliste, il ne le racontait pas dans un livre, il le racontait à moi. C'était ses mots à lui pour moi. Et je me suis dit, en fait, j'avais l'impression que c'était des personnages. En fait, je n'arrivais pas à imaginer ma mère et mon père. Pour moi, c'était des personnages. J'avais construit un film, quoi, dans ma tête, totalement. Et puis après, il y a aussi, d'accord, c'est leur histoire, mais en fait, cette histoire, en fait, il y en a des milliers et des milliers qui l'ont vécu aussi. Donc il faut pouvoir passer à autre chose. Enfin, moi, en tout cas, il faut que je m'en débarrasse. C'est pas la mienne. C'est enfin, quoi que maintenant tu me l'as raconté, j'ai l'impression qu'elle m'appartient.
A-t-il tout raconté? C'est pas sûr. Non, mais je suis sûr que vous l'avez protégé parce que c'est épique. Il y a plein d'étapes. Vous avez failli mourir plein de fois, hein, assassiné par les Moudjahidines, par les talibans, tout y passe.
Oui, c'est vrai que d'abord, déjà, le service secret.
Oui, déjà, qui vous suit,
communiste,
qui vous empêche de partir.
Absolument, la première fois, la première tentative, et depuis deuxième fois, c'était dans les Mahdi Moudjahidine, là, c'était encore pire. Donc oui, à chaque fois, oui, il y avait des étapes comme ça. C'est vrai que je me trouvais dans un film d'espionnage.
Mais ça va jusqu'au bout, parce que vous arrivez dans l'avion, enfin.
Ah oui.
Et là, vous mangez un Babybel, je vais dire la marque, parce que... Et vous mangez tout le Babybel.
Oui, j'avais enlevé juste le truc plastique, mais avec le cire, j'ai enlevé comme ça. Et justement, mon épouse qui était à côté de moi, je lui ai dit, mais j'avais entendu autrement du fromage français. Et dis-nous, il fallait enlever justement le cire.
Bon, on apprend beaucoup de choses sur l'Afghanistan, pays très ouvert sur le monde, très francophile aussi, avant l'invasion russe et l'arrivée des talibans. On a l'impression, malgré tout, que l'histoire se répète. Aujourd'hui, le pays n'a jamais été aussi fermé, aussi restrictif. Que faut-il craindre pour l'Afghanistan aujourd'hui? Que craignez-vous, Atiq Raimi?
La même chose que je crains pour le monde. L'Afghanistan fait partie de ce monde. Évidemment, si tout va bien dans le monde, il n'y a aucune raison que ça aille mal dans mon pays d'origine, en Afghanistan. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Ça, je suis sûr et certain de ce que j'essaie de dire, d'expliquer à Lise. Alors, elle m'a appris autre chose, bien sûr. Que oui, peut-être que l'humanité est en train de vivre un changement très radical et profond. Et notre malheur ou notre bonheur, ça je ne sais pas, c'est qu'on vit ce changement. Et c'est douloureux, bien sûr, parce que nous, on vit avec notre nostalgie, avec cet égo-système qu'on a construit, nous, et cette nouvelle génération qui va vers autre chose, vers une sorte de retour à l'écosystème. Et j'espère que ça se passe, que cette crise qu'on vit, ce n'est qu'une crise positive.
Les talibans vont rester, les talibans vont continuer.
Bah écoutez, si le monde va dans ce sens-là, oui, oui, ils vont rester parce que eux, ils sont venus pas n'importe comment, évidemment avec une concession avec tous les pays presque oui, des grandes puissances et notamment les pays voisins. Donc ils sont soutenus par la Chine, la Russie, l'Iran, le Pakistan, l'Arabie Saoudite.
Ça fait
donc,
beaucoup.
Ça fait beaucoup.
Alice, pour terminer, on va vous donner le mot de la fin. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience avec votre père et de cette écriture, de ce qu'il vous a dit surtout? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou le plus ému peut-être?
Je ne sais pas, je pense que j'ai toujours cru que la transmission se faisait de père ou de la mère à l'enfant. Et en fait, je crois qu'aussi on peut transmettre de l'enfant aux parents. Je pense énormément et de l'avoir rencontré dans les mots.
Vous lui avez transmis des choses du coup?
Oui, je pense. Ouais.
Elle dit ça en le regardant. Bon, ils sont émus tous les deux, c'est magnifique. Vous pouvez les applaudir. Atik Raïmi, immense écrivain. Il faut lire absolument. Toute son œuvre est publiée chez POL. Et Alice Raïmi, donc, qu'on retrouvera, dont on parlera très bientôt au Festival de Cannes. Si seulement la nuit est parue donc aux éditions POL. Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci. La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires, deuxième partie, avec la Belgique, Déborah Damblon. Un coup de gueule ou un coup de cœur?
Un coup de cœur, Emmanuel, pour Fêlure, le dernier roman de notre chère Barbara Abel, qui maîtrise à merveille, comme vous le savez, les faux-semblants. Et ce qui est fort, c'est que chaque fois, elle arrive à se renouveler. Et ici, on découvre un couple fusionnel qui a décidé de se suicider ensemble.
Voilà.
Sauf que la femme, eh ben, elle s'est ratée et elle se réveille. À moins que, je vous rappelle que nous sommes chez Barbara Abel
ouais.
Et que rien n'est ce que ça semble être.
Ben, ça donne envie, hein. Un couple qui suicide, mais bon.
Mais non, elle s'est ratée. Oh, d'accord. Il faut suivre, Emmanuel.
Barbara Abel, effectivement, qui a un grand succès en librairie. Les Fêlures, aux éditions Plon. Merci, Déborah. On termine avec un coup de gueule en France. Mathieu Colombe.
Oui.
Oula, ça va saigner, je sens, je sais pas, il me regarde bizarrement.
Non, je suis mignon. J'ai pu apprendre récemment, figurez-vous, Emmanuel, que j'étais pas un professionnel du livre. En effet, quand j'ai voulu m'inscrire pour venir au festival, j'ai pu constater que contrairement aux enseignants et aux journalistes, entre autres, les libraires ne pouvaient pas prétendre à une accréditation professionnelle. Je trouve que c'est un honteux camouflet pour nous. Entendons-nous bien, on s'attend pas à avoir un tapis rouge quand on arrive, hein. Mais quand on se fend d'un aller-retour à Paris en sacrifiant des jours de boulot, on aimerait bien pouvoir circuler librement dans un festival qui était il y a pas si longtemps un événement professionnel et même interprofessionnel. Et en plus, quand je sais que d'anciens confrères sont dans l'organisation, les bras m'en tombent.
Très bien, donnez-lui une accréditation tout de suite.
Immédiatement.
Je vais demander à mon équipe, comme ça ce sera réglé. Je rappelle que Radio France est partenaire du Festival du Livre de façon historique. Et on salue évidemment l'organisation quand même. Merci. Merci beaucoup Mathieu. Nous allons quitter ce studio pour aller justement dans l'ambiance du Festival du Livre de Paris à la rencontre des auteurs qui sont présents et on vous réserve des surprises. Restez avec nous. Un grand merci au public venu nous voir sur ce magnifique plateau de Radio France mis en place par Alain Fauché et Rémi Gouriot avec Raja Boudniv. Vous pouvez applaudir toute l'équipe et merci aux auditeurs français qui ont fait une nouvelle fois de la librairie francophone l'émission numéro 1 en France, très loin devant la concurrence. Les dernières audiences radio marquent une nouvelle étape avec un record d'audience. On vous dit merci au moins 1 million de fois. Merci à vous, à très bientôt, merci beaucoup. Allez, le temps de nous déplacer, voici Gaëtan Roussel et Alain Souchon. Et on revient ici au Festival du Livre de Paris en immersion totale.
Les rues comme mes poches sont vides. Les avenues si calmes sont l'air bolide. L'air est plus clair, paraît plus limpide. Personne ne joue, le temps est humide. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. De l'extérieur, où sont les commerces, les glucides et ma monnaie, même timide. J'entends que la vie se vit sous vide. La mienne comme mes poches reste vide. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. de l'extérieur. Rien ne vaut la vie, elle est splendide. Tant de sauvés grâce à vous qui sortez courageux, solide. Faire un geste, un don rapide. Mais mes poches, comme les rues, restent vides. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. De l'extérieur.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et on est au cœur du Festival du Livre de Paris. On vous fait vivre cette ambiance en immersion avec le public, bien sûr, venu en nombre ici depuis 2 ans de privation de festival et puis des auteurs qui sont autour de nous, des éditeurs. On va tout de suite aller rejoindre un auteur que l'on connaît bien,
Monsieur Tellet. Autant lui je l'aime que lui je l'aime pas du tout.
C'est qui lui que vous aimez?
Et il s'appelle Philippe.
Jean-Philippe.
Et Jean-Philippe. Et il est grand comme moi. Et il est très sympa, très souriant. Et il n'a pas un caractère un petit peu désagréable comme le vôtre.
Bah dis donc, sacré retrouvaille. Merci, avec une coupe de champagne.
Ben c'est à cause de ça que vous êtes en train de vivre un drame de l'alcoolisme.
Alors j'étais en train de dire, un auteur qu'on connaît bien, qu'on retrouve au Festival du Livre de Paris, c'est Jean Tellet, donc vous l'avez entendu. Moi j'étais sympathique avec vous. Ça va? Vous allez bien?
Mais oui, ça va. Surtout quand je vous vois en fait, parce que je vous trouve très sympa.
Ah oui, ça a changé du coup.
Mais maintenant que je sais que ça passe à la radio, vous savez que c'est un métier. Hein. Les gens ils croient qu'il suffit d'être artiste, mais non, c'est un boulot.
Vous n'aviez pas vu le micro en fait, c'est ça? Ouais. Faites-moi croire ça. Bon, on est content de revenir.
Ah, c'est bien.
Après 2 ans de privation, je le disais, le Festival du Livre de Paris, ici, derrière la Tour Eiffel. On voit la Tour Eiffel justement, qui est juste là, à côté de nous, hein, du côté du Champ de Mars. Et c'était important de retrouver ce public, de faire des signatures comme vous le faites là aujourd'hui.
Ah oui, et moi ce que j'aime bien dans ce Salon du Livre, c'est que dans le précédent, la Porte de Versailles, il y avait les éditeurs, c'était comme ceux qui veulent faire voir s'ils ont la plus grosse bite et tout, où il y avait des colonnes pour faire Robert Laffont, machin, tout ça. Et là, tous les stands sont pareils, que ce soit un Gallimard ou un petit éditeur, c'est tout pareil. Et je trouve que c'est sympathique, c'est plus chaleureux. Ouais.
C'est plus chaleureux, c'est plus convivial. Effectivement, il y a de l'ambiance, le public est au rendez-vous. Comment ça se passe, les signatures, Jean Tellet, quand on a quitté le public depuis autant de temps? Comment on retrouve la plume et les signatures?
J'en ai pas fait beaucoup, là, à cause de tout ce bazar, mais là, les quelques fois où je fais, j'en signe beaucoup et tout. Et j'ai même appris un truc que j'ai jamais vu dans aucun salon du livre, c'est que samedi et dimanche, il y a un truc signature VIP. Et j'ai demandé, mais c'est quoi ça? Je savais pas. Et il y a un endroit qui est prévu pour les auteurs qui sont censés avoir beaucoup de monde pour
dédicacer. Ah oui, d'accord.
Et je trouve ça...
Et vous êtes dedans ou pas?
Et je suis dedans. Et alors je me dis, j'espère qu'il va y avoir du monde, parce que sinon, être en VIP avec personne devant, ça doit être la honte.
Bon dimanche à vous, Jean.
Merci. Merci, Emmanuel.
Bon, merci pour ce passage amical. Merci à vous. On va continuer notre périple. On va rencontrer d'autres auteurs. Merci, Jean Tellet. Merci beaucoup.
À bientôt.
Et on retrouve Jules sur le stand du Seuil, parmi les livres. Il est très inspiré, Jules. Je l'ai vu tout à l'heure en arrivant. Comment allez-vous? Bonjour, Jules.
Ben, très bizarre, parce que je viens de traverser l'allée. Normalement, je suis en bande dessinée. Et là, je viens d'arriver chez Les Vrais Livres. Donc, je suis un peu comme ça, en phase d'adaptation.
Comment ça se passe, ces retrouvailles avec le public, avec les éditeurs,
avec le monde du livre finalement qui se retrouve enfin au Festival du Livre de Paris?
Alors j'ai eu un petit entraînement parce qu'en fait il y avait le Festival d'Angoulême auparavant. Donc ça c'était la façon d'attraper le Covid pour les auteurs de BD. C'était un cluster géant. Et donc là, je me sens complètement libre d'embrasser tous les gens que je vois. C'est un peu le Woodstock du livre. Là, c'est en plus, il fait beau. Et puis, c'est la fin du monde, comme vous l'aurez noté. Donc, tout le monde, j'ai l'impression, a envie d'en profiter, non ?
Alors, quels sont les livres que vous signez ici ?
Alors, je ne vais pas signer de livres. En revanche, comme je me réincarne très bientôt comme auteur de livres de littérature générale, parce que je vais sortir un livre au seuil, mais en septembre, donc il n'est pas encore à disposition du public. Mais en revanche, cette idée de réincarnation, je vais la développer parce que je fais une table ronde avec les auteurs indiens qui sont invités cette année au Salon du Livre.
L'invité d'honneur, pays invité d'honneur.
Voilà, et donc on fait une table ronde avec des dessinateurs indiens qui sont géniaux en fait. Et après, je vais les rejoindre à Delhi et à Bombay à mon tour parce que la France est aussi pas mal invitée là-bas.
Bon, merci beaucoup Jules, on vous souhaite bonne chance pour la suite.
Merci.
On se retrouvera, je l'espère, à la rentrée avec un nouveau Lucky Luke. Il y a un nouveau Lucky Luke qui sort, faut le savoir.
C'est sûr, fin octobre.
Ça, on vous le dit en avant-première. Et puis un premier livre, vrai livre de Jules.
Un vrai livre au seuil, ouais, c'est sympa.
Sur la philo ?
Sur la mythologie.
Ah, bah, c'est pas loin.
Voilà, là aussi c'est un peu des miracles.
Merci Jules, merci beaucoup.
Ah bah Daniel Piccoli,
comment ça va ?
Demandez aux gens, carrément.
C'est ça, c'est un peu le principe, hein. On est en immersion dans le Festival du Livre de Paris.
Ouais, bah,
comment ça va Daniel Piccoli ?
Affreusement bien. Je trouve le public intéressé, et, le public se demande un peu, prend ses marques, essaie de se repérer, se perd. Qu'est-ce que c'est bon de se perdre quand même, bon. Donc merci à ce salon qui nous permet de nous perdre.
Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle formule ? Parce qu'effectivement on est dans un autre endroit, on est à côté du Grand Palais, le Grand Palais éphémère, on a la Tour Eiffel qui est juste à côté de nous, le lieu a changé, les stands sont plus intimes, il y a quelque chose de très chaleureux, très convivial, avec un rapport direct avec le public, plus direct encore qu'avant.
Oui, c'est l'idée, elle est mise en œuvre, et il y a même presque un éclairage plus intimiste. Enfin, non, mais je pense que c'était nécessaire de réinventer, de revisiter, et puis franchement, là, c'est ce palais éphémère. Moi, j'avais envie de le voir déjà, ne serait-ce que lui, j'avais envie de savoir ce qu'il en était, comment ça résonnait. C'est tellement serré qu'on se met des coups de coude partout, là.
Bon, on va vous laisser avec votre éditeur, avec tout le monde. Merci, Daniel.
On fait rien de moins d'un mètre 90 dans cette émission. Bravo.
Merci, Daniel.
Oh, comment ça va ?
Bonjour, Pierre Assouline.
Bonjour, cher ami.
Comment allez-vous ?
Bien.
C'est la fête aujourd'hui pour vous, de retrouver le public, de retrouver les éditeurs, tout le monde ?
Je viens de me rappeler que ça fait 40 ans que je viens dans ce truc-là. Mais là, l'endroit est assez bluffant, je trouve. Ils se sont bien débrouillés. C'est un très joli endroit.
Comment vous vous sentez dans un salon du livre, vous, en général ?
Ce que je trouve formidable, c'est l'avidité extraordinaire des gens, notamment des jeunes, qui se précipitent sur le livre. Ce que je trouve génial, cette fois-ci, enfin, c'est qu'au bout de 40 ans, d'abord, ils ont viré Elzévier, bravo, organisateur, mais surtout, ça a permis...
Au moins, c'est clair.
Ça a permis une réforme fondamentale. C'est que l'entrée est gratuite. Quand même. Ça fait 40 ans qu'on nous dit...
C'est vrai.
C'est la première librairie de France qui faisait payer quand même 10 euros l'entrée. Donc vous imaginez une famille de 4, ils payaient 40 euros avant d'acheter un livre. Ce qui est scandaleux. Là, c'est gratuit, on rentre comme ça, c'est formidable. Et c'est la moindre des choses, c'est normal. Donc moi, je me réjouis. Donc déjà, je tiens à saluer cette nouvelle organisation et les féliciter pour ça.
Vous signez votre dernier roman, paru chez Gallimard, ici, avec un public très fidèle. On vous aime beaucoup, Pierre Assouline, vous le savez. Et c'est vrai que vous avez de vrais fidèles, de vrais lecteurs fidèles.
C'est-à-dire que dans les rencontres en librairie, que je fais tout le temps, j'en fais en ce moment pour le paquebot, mon roman, les gens qui achètent mes livres, non seulement me parlent des anciens livres, mais rachètent en poche pour les offrir et tout ça. Et donc, il y a une fidélité qui se crée, bien sûr. Et ça, c'est bien. C'est bien parce que c'est rassurant.
Oh, merci beaucoup, Pierre, de parler au micro de la librairie francophone. Dès qu'on le souhaite, vous êtes toujours là. Merci beaucoup, Pierre Assouline.
À bientôt.
À bientôt. Bon salon du livre. Bonjour, Florence Sestac.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, très bien.
Au très Festival content. Du Livre de Paris. Festival, hein. Ça vous va comme nom ?
Oui, ça a changé de dénomination, mais c'est bien de s'en trouver tous ensemble et tout, de voir tous ces livres et tout, et de la lumière, plein de gens. Moi, je suis ravie, voilà.
Alors, le rapport avec le public, enfin,
parce que pendant des mois avec cette histoire de pandémie, évidemment, les signatures n'ont pas été possibles, les salons n'ont pas été possibles. On a l'impression là que ce week-end, c'est un peu les retrouvailles.
Oui, oui, ben, bien sûr. Et il y a longtemps qu'on n'a pas dédicacé, nous, les auteurs et tout. Et moi, j'adore ça, dédicacer, parce que c'est l'occasion d'en compter les gens qui vous lisent, le public, qui vous racontent des histoires et tout. Et moi j'aime ça. Et donc, je suis ravie d'y retourner. Très ravie.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les lecteurs, vous, la grande autrice de bande dessinée ? Alors, ils vous parlent de l'humour, bien sûr, de tout votre parcours, parce qu'il y en a eu des BD. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un rapport différent ?
Non, moi, il me parle beaucoup de, par exemple, le dernier que j'ai fait qui s'appelle Un papa, une maman, une famille formidable, la mienne.
Dont on avait parlé dans l'émission.
Exactement. Et donc, les gens me disent, ils me témoignent qu'eux aussi, ils ont vécu la même chose. C'était, voilà, les familles, les 30 glorieuses et tout. Et j'ai un nombre incalculable de courriers qui m'est arrivé et des gens qui me disent, mais moi aussi, j'ai vécu ça. Moi aussi, mon père, il était comme ça et tout et tout. Et donc, ça leur fait plaisir parce qu'ils disent, ah, enfin, on peut se lâcher, quoi.
On a l'impression que le public a envie de partager. Et ici, d'ailleurs, au Festival du Livre, c'est ça. Voilà. Les éditeurs, le public, les journalistes, les auteurs, tout le monde, on a tous envie de partager.
Exactement, voilà. Et la bande dessinée, bah, c'est effectivement un moyen comme un autre de communiquer avec les gens. Et les gens me racontent leurs anecdotes et tout, comme le démon de midi. Bah, je rencontre beaucoup de femmes qui me disent, bah, moi aussi, j'ai vécu la même chose. Mais moi, mon mari m'a fait ci, mais moi, mon mari m'a fait ça et tout. Et donc, on partage. Voilà, c'est des moments de partage et ça nous manquait, vraiment.
Exactement. Merci beaucoup, Florence Estac.
Merci.
Merci. Bon Festival du Livre de Paris, ici en France. À bientôt, Florence. Allez, on va quitter ces stands et tous ces auteurs pour rejoindre notre studio. Avant de conclure, comme toujours, on écoute le son de l'outre-mer avec le groupe mythique de la Guadeloupe, Les Aiglons, qui sortent un album concert-événement pour leurs 45 ans. Un extrait de Cuisla interprété par Les Aiglons. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Adrien Gaza et Charles Bouticourt. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Louise de Villard de France Inter. Avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada, Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, nous serons avec l'apnéiste Guillaume Néry, Eric Orsena, Bernard Cerquigligne et nous irons à Montréal pour un entretien-reportage sur les Innus sans domicile avec Michel Jean. Merci pour votre fidélité. Bon week-end à tous, bonne semaine. Et n'oubliez pas la rediffusion de la librairie francophone à 1h du matin avec le bonus créole. À suivre Barbatruc avec Dorothée Barba.